BPM, l'association de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission, l'association de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons l'association Solidarité Humaine de France avec son président Michel Roux. Bonjour.
Bonjour.
Et puis Catherine Leroux, qui est membre de l'association et qui était anciennement présidente. Bonjour à vous.
Bonjour.
On va commencer par présenter Solidarité Humaine de France. Un point sur l'historique de l'association et ses missions.
Alors, l'historique de l'association est relativement simple. C'est une association qui existe depuis 1998, qui a évolué jusqu'à aujourd'hui sous différentes appellations. Au départ, Solidarité Humaine Île-de-France et maintenant Solidarité Humaine de France. C'est une association qui a une particularité lors de sa création. Elle émane d'une création togolaise. Ce sont donc des Togolais, des amis togolais, qui ont créé cette association en 1998 et nous les avons suivis comme partenaires français et comme correspondants pour la France. Donc, durant ces 20 années maintenant, un peu plus de 20 années, nous avons fait donc un certain nombre de réalisations, toujours en s'appuyant sur ce que nous avons souhaité mettre dès le départ en route, c'est-à-dire une certaine éthique dans la pratique associative. Et pour ce faire, nous avons donc d'entrée de jeu posé, si vous voulez, des actes assez forts qui suivaient donc des mots-clés, ce que nous avons appelé des mots-clés, qui sont simples mais qui sont relativement parlants. Le premier mot-clé, c'est solidarité, ensuite responsabilité, démocratie et liberté. Ils ont bien évidemment chacun, premièrement un sens que tout le monde connaît, mais aussi une raison d'être dans le contexte de cette association. Et nous avons développé, non pas pour faire plaisir aux adhérents français, mais pour effectivement faire face aux besoins qui étaient ceux donc de la population togolaise, puisque nous avons essentiellement travaillé avec un pays qui s'appelle le Togo, et nous avons travaillé essentiellement sur l'expression des besoins qui nous avaient été faits.
Donc ça concerne le Togo. Pourquoi le Togo ?
Alors, pourquoi le Togo ? Eh bien, tout simplement, c'est une histoire d'être humain, comme on dit. À Mantes, il y avait un monsieur qui s'appelait Maoko Akwete, togolais, journaliste togolais, qui était donc un ami, et il est reparti au Togo parce que, le Togo étant une démocrature, il a été rappelé par son gouvernement, parce que on commençait un peu à bâillonner un certain nombre de personnes de l'opposition. Donc, suite à cette rencontre, nous avons appris à connaître le Togo. Et un jour, on s'est dit, on va au Togo.
Et du coup, alors le Togo, ça reste quand même un pays, donc c'est assez grand. Est-ce que vous couvrez tout le pays ou juste des zones en particulier ?
Alors le pays, c'est un petit pays, 8 millions d'habitants, donc c'est vraiment très peu de choses à gérer. Et nous travaillons essentiellement sur une zone qui s'appelle la zone maritime, dans une préfecture particulière, qui est la préfecture du Zio, et dans un groupe de villages avec un chef-lieu de canton, on peut l'appeler comme ça, qui s'appelait Batopé.
Votre projet dans cette zone, ça s'articule autour de plusieurs domaines pour la population.
Bien sûr. Quand nous sommes arrivés donc sur cette zone dans les années, je vous dis, 97-98, il n'y avait pratiquement rien de fait. La population en zone rurale, puisqu'on travaille vraiment en zone rurale, était en demande de beaucoup de choses, mais c'est un pays, comme je vous le disais aussi, avec une démocrature, et il n'y avait pas, disons, un développement très performant. Notre association n'est pas une association humanitaire, nous sommes une association, on se réclame, d'aide au développement, ce qui est quand même totalement différent. Donc nous nous sommes appuyés sur des projets qui avaient été construits par les édiles locales, qui sont des chefs traditionnels, et ils appellent ça, eux, là-bas, les élites et les notables, sur un projet donc de développement, justement, qui était en stand-by et que nous avons pu nous développer.
Alors, justement, donnez-nous des exemples de sujets sur lesquels l'association travaille pour aider, finalement, au développement de ces régions du Togo.
Alors, c'est les sujets bateaux pour toute l'Afrique subsaharienne, la santé, l'école, l'eau. Donc nous avons effectivement travaillé sur ces trois types de projets pendant 20 ans et nous avons développé donc beaucoup de choses en fonction justement des demandes et des besoins surtout.
Et par exemple, concrètement, quel type de projets ont été menés ?
Alors, on a commencé par la santé. Ça a été leur priorité, hein, donc nous sommes pliés à cette priorité. Par faire, si vous voulez, une organisation de nous on a appelé ça la maternité, mais en fait c'est plus un centre primaire de soins, unité primaire de soins, pour l'appellation légale. Ensuite, bon, je vous passe les détails, ensuite on s'est attaqué donc à la scolarisation, c'est-à-dire des bâtiments, surtout des infrastructures scolaires. Ensuite, nous sommes passés sur le désenclavement des villages, puisque ce sont quand même des zones très rurales et il n'y avait absolument aucune piste praticable par des camions ou des voitures entre tous les villages. Et nous avons terminé donc par un gros projet sur la réhabilitation et le forage sur 5 puits différents sur différents groupes de villages.
Alors le credo de l'association, c'est aussi la promotion de la femme et de l'enfant.
Absolument, ça a été, si vous voulez, vraiment au point de départ de cette association. C'est les mots-clés dont je vous ai parlé, avec en dessous ou au-dessus, comme on veut, effectivement, promotion de la femme et de l'enfant. L'Afrique subsaharienne, malgré ce que l'on peut penser, la femme joue un très grand rôle dans la gestion du foyer et dans la gestion de la famille. Pas seulement un rôle de cuisinière, d'aller au champ, élever les enfants. Non, elle gère également la famille. Et ça, on l'ignore quand on ne connaît pas bien l'Afrique subsaharienne. Donc, la femme a un très grand rôle, on a voulu les appuyer, et les enfants, bien sûr, scolarisation. Donc, maternité et scolarisation.
Alors, avant d'aller plus loin, on va présenter l'équipe de Solidarité Humaine de France. Donc, vous êtes basé à Rosny-sur-Seine.
Oui.
Combien y a-t-il de membres actuellement ?
Alors, actuellement, nous sommes 24 membres. Le bureau donc, est constitué de 3 personnes. Le président, le trésorier et il n'y a pas de secrétaire, il n'y a plus de secrétaire. Donc, le président fait office de secrétaire, on va dire. Parce que le bénévolat, malheureusement, il a un petit peu tendance à se perdre, la notion de bénévolat. Mais nous sommes, donc voilà, il y a 24 adhérents et nos actions actuellement donc, sont beaucoup moins visibles parce que nous sommes moins nombreux. Notre ambition est différente puisque nous travaillons toujours sur le Togo mais d'une autre forme, on pourra en parler tout à l'heure. Et nous mettons l'accent sur des actions plus locales mais sur le plan vraiment franco-français, on va dire.
D'accord. Bon, du coup, on va commencer par l'autre forme de travail concernant le Togo. Comment vous travaillez actuellement par rapport à ce pays ?
Alors actuellement, on essaye de valoriser, entre guillemets bien sûr, de valoriser l'acquis que nous avons pu avoir en termes d'organisation, en termes de connaissances des réseaux de cofinancement et puis des différents réseaux donc, qui permettent d'avancer. Actuellement, nous avons deux projets principaux, pardon. Le projet de coopération décentralisée Togo-France et un projet donc de rapprochement culturel école française et école togolaise. Et là, nous éprouvons des difficultés. J'aurai peut-être l'opportunité d'évoquer ce point aussi tout à l'heure. Donc, deux grands projets, coopération décentralisée et ensuite ce rapprochement culturel entre enfants, en fait, école primaire.
D'accord. Et du coup, au niveau local, qu'est-ce que vous faites en ce moment ?
Alors, au niveau local, sur la région mantaise, nous avons donc mis en place, avant la pandémie, ça a coupé court un peu à beaucoup de choses cette période, nous avions mis en place donc des formations citoyennes à la citoyenneté, et en particulier auprès des ce qu'on appelle les CADA, les centres d'accueil de demandeurs d'asile, qui accueillent effectivement les personnes qui sont en attente d'une décision donc de l'État français pour leur demande d'accueil en France. Donc nous avons mis en application donc réelle ces formations qui ont été très bien acceptées, très bien reçues et qui ont porté leurs fruits. La pandémie est arrivée et maintenant nous avons changé un petit peu notre fusil d'épaule. Nous avons ouvert ces formations à la citoyenneté donc à tout le monde, à tous, puisque on s'aperçoit quand on s'intéresse à la vie politique, à la vie citoyenne française, que, bon, avec les histoires de taux d'absentéisme, taux d'abstention, pardon, au niveau des différentes élections, il y a certainement un manque de culture citoyenne par rapport justement à ce qu'est l'État français, comment ça fonctionne, la République, qu'est-ce que c'est ?
Alors, l'association mène un certain nombre de manifestations associatives par rapport justement aux missions que vous menez. Quelles sont ces manifestations ?
Alors, les manifestations associatives, on n'en a plus. On n'en fait plus.
Donc, qu'est-ce que vous faisiez
alors ? Alors, avant, ce que nous faisions, donc là, on a fait vraiment de belles choses. Nous avions un partenariat, entre guillemets, toujours avec les Quatre-Arts. L'école des Quatre-Arts de Magnanville, et tous les ans, l'école des Quatre-Arts nous offrait une prestation qui était assez intéressante. Hein. Donc tous les parents d'élèves venaient assister, on remplissait vraiment des salles, et ce qui nous apportait du financement pour l'école maternelle. Ça a été la première école maternelle de ce nom, et digne de ce nom, au Togo, il y a 13 ans maintenant. Ce qui nous a permis donc de financer cette école maternelle. Nous avions également, bien sûr, des manifestations plus culturelles sur le plan artistique. Nous faisions donc une exposition, pendant plus de 10 ans, on a fait une exposition à la Corniche de Rolboise, qui nous accueillait donc gracieusement pour réaliser ce que nous avions appelé le Salon de la Corniche. Nous réunissions donc des peintres locaux ou nationaux, même internationaux, des sculpteurs, hein, de façon à toujours se faire connaître et puis faire voir qu'il y avait une certaine activité. Et le dernier point, ce qui se faisait au mois de novembre, juste avant les fêtes de Noël, le Salon des Créateurs, ça on a fait ça pendant 14 ans, qui tournait très très bien, donc avec, c'était pas un salon artisanal, on essayait d'avoir des choses un peu de qualité, un peu plus de qualité que de l'artisanat, et ça a très bien fonctionné, et puis au bout de 14 ans, les choses, tout lasse, tout passe, comme on dit.
Par le passé, des membres de l'association qui se rendaient au Togo aussi, ou c'est toujours d'actualité ou...
Oui, alors en ce qui concerne les adhérents, il y a eu des voyages qui ont été organisés au fil du temps. Pour ma part, j'ai participé à celui de 2011, donc j'étais déjà dans une période où l'association avait déjà travaillé avec l'école maternelle, avec le dispensaire, il n'a pas cité, mais il y avait également un marché... Et j'ai pu rencontrer des personnes ayant eu des initiatives, comme par exemple une femme qui avait une école pour apprendre à coudre. Donc nous avons pu visiter son atelier et voir avec quel outil d'ailleurs elle pouvait travailler. Et donc de voir à quel point c'était important ce que disait tout à l'heure Michel, à savoir nous on apporte notre savoir-faire, mais sur place, il y a un relais, c'est-à-dire que derrière, on s'en va, mais l'école de couture existe toujours, le marché est utilisé, c'était important. Et quand on me demandait d'ailleurs, mais qu'est-ce que tu fais dans cette association ? Je disais, c'est un peu comme la production de cinéma, on trouve le sujet, on trouve les acteurs, on trouve les réalisateurs locaux, et on est content quand tout va bien, mais ce n'est pas nous qui... nous ne sommes pas les bons blancs qui venons apporter une solution. Mais comme ça a été dit, et c'est très important, responsabilité de la part des acteurs locaux. Donc nous avons pu à la fois rencontrer, parce que je ne me souviens plus exactement, Michel vous le dira, mais il y avait la maison dans laquelle il y avait une bibliothèque.
Maison de l'avenir.
Voilà, ça s'appelait la maison de l'avenir. On a vu aussi à quel point ils avaient envie de nous montrer qu'ils avaient compris le message. Donc on a pu aussi voir des manifestations. Par exemple, à l'école maternelle, alors qu'ils étaient en vacances, hein, ils sont revenus et ils nous ont fait un petit spectacle. Alors, il y avait des chants, mais il y avait aussi un sketch où il était démontré que l'école maternelle, c'était important, et y compris que les petites filles puissent y participer. Et quand même, il faut savoir que les résultats scolaires de ces enfants qui étaient passés en maternelle étaient meilleurs que ceux qui n'avaient pas pu en bénéficier, parce que l'école maternelle n'existe pas au Togo.
Et du coup, vous avez un suivi, un regard ensuite à long terme sur les avancées que vous avez pu apporter ?
Alors moi, par l'intermédiaire de l'association, on a des nouvelles notamment de l'école maternelle. C'est vrai que pour l'instant, j'imagine que l'école de couture existe toujours, sauf si effectivement la personne qui en était la directrice a arrêté son activité. De même que, vous savez, moi je suis très naïve, donc lorsqu'on a inauguré les kilomètres de piste, on m'a expliqué qu'il allait falloir presque faire un contrat avec chaque village sur la piste pour qu'ils s'engagent à entretenir les fossés. parce que c'était pas naturel et que sans les fossés, ces pistes finiraient par ne plus être praticables. Or, pour faire passer des camions, pour transporter des ananas ou autres, il fallait que ces pistes restent en état. Donc c'est vraiment un état d'esprit, un fonctionnement qui est très formateur pour nous, y compris d'ailleurs dans notre vie associative sur Mantes. Hein.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure les difficultés que pouvait rencontrer l'association. Bah, quelles sont ces difficultés qui sont peut-être aussi la cause du fait que vous organisez peut-être moins d'événements qu'avant ?
Alors, votre question est à deux entrées. Je vais commencer par les difficultés. Quelles sont-elles ? Alors, les difficultés, je vous l'ai dit, le bénévolat. C'est une denrée qui devient relativement rare parce qu'il n'est plus compris. Le bénévole devient un consommateur. C'est-à-dire qu'on consomme du bénévolat, on va faire du bénévolat pendant une semaine ou deux semaines ou un mois, et puis après on va essayer de passer à autre chose. Très, très peu de personnes actuellement, s'engagent à long terme, sauf Resto du Cœur ou des choses comme ça, bien évidemment, mais dans des associations comme les nôtres, très peu de personnes d'un cercle beaucoup plus éloigné en termes d'intime, on va dire, s'engagent dans le long terme. Alors, il y a une raison. La raison que moi j'analyse, c'est il y a maintenant des pools de bénévoles. Il y a France Bénévolat, bien sûr, il y a longtemps que ça existe. Il y a Ressources et Compétences, c'est des pools qui sont très très bien. Mais ouais, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire qu'avec les dispositifs actuels qui existent dans la télécommunication ou la communication, vous pouvez être à Marseille et puis intervenir dans une association qui est à Calais sans jamais venir à Calais, parce que on peut faire des choses comme ça. Et nous utilisons maintenant de plus en plus ce type de bénévoles. Ce sont des contrats sur 6 mois en général. Et actuellement, par exemple, nous avons un bénévole de France Bénévolat qui travaille sur la formation citoyenne pour l'adapter à un travail donc en ligne et non plus un travail en présentiel. Donc ça, c'est pour la partie bénévolat. Ensuite, les bénévoles sont aussi un petit peu, déçus. Déçus pourquoi ? Parce que quand c'est gratuit, tout va bien. Je m'explique. Une association avec ce que je vous ai expliqué, vous avez bien compris que c'est pas les dons des adhérents qui a fait que, parce qu'on n'a jamais été plus de 40 adhérents. C'est donc quelque chose de l'argent, des fonds qu'il faut aller chercher. Plusieurs façons. Les subventions, les choses comme ça. Nous, on a eu toujours, bien sûr, ce principe, mais aussi, surtout, le principe de « on veut gagner notre argent ». Donc, le bénévolat, les personnes, je pense aux communes, je pense à des organismes comme les CADA, je pense à d'autres organismes qui peuvent recevoir, donc, par exemple, une formation citoyenne. Tant que cette formation est donnée bénévolement, tout va bien. On en a besoin. À partir du moment où vous dites les gens sont bénévoles, mais l'association, elle n'est pas bénévole. L'association demande quelque chose. Là, on n'a plus besoin de rien du tout. Donc ça, si vous voulez, c'est très frustrant pour les bénévoles parce que eux s'engagent bénévolement. Ils font à la limite le job de quelqu'un qui pourrait le faire mais qui ne le fait pas parce que je ne sais pas pourquoi. Nous, on le fait bénévolement. L'association demande, bien sûr, il faut qu'elle fonctionne. Elle demande, si vous voulez, une indemnisation. Donc, c'est ça un petit peu qui, je crois aussi, est frustrant pour les bénévoles. C'est-à-dire que beaucoup ont l'impression, on profite, et puis après, bah, voilà.
Et donc, du coup, pour la seconde partie de ma question, pourquoi vous organisez moins d'événements qu'avant ?
Moins d'événements qu'avant, parce que, premièrement, c'est un gros travail. Ça, c'est une chose. Bon, on a un savoir-faire, donc c'est pas un gros problème quand même. Mais ce qui est important, d'avoir quelque chose derrière. Là, en ce moment, qu'est-ce qu'on peut vendre, entre guillemets, toujours, hein, à des adhérents ou à des personnes ? On va vendre, il faut vous former à la citoyenneté, oui, voilà. Donc, on n'a pas, si vous voulez, quelque chose qui peut forcément, ça intéresse un public particulier, ça n'intéresse pas une grande majorité.
Si je resitue aussi à l'époque où on a commencé à avoir des difficultés dans nos initiatives, c'était à la fois parce que quelque part les bonnes idées comme le salon des créateurs était dupliqué dans d'autres endroits. Et de fait, nous nous retrouvions avec des créateurs qui nous disaient vouloir venir et qui ne venaient pas. Donc déjà à la base, ça devenait compliqué. Et puis, comme dans toute association, on a besoin de renouvellement des équipes parce que les personnes qui s'y consacrent finissent aussi par être fatiguées. Donc les deux ensemble, à savoir quelque part un problème de trouver aussi, parce que c'est pas faire le salon des créateurs comme ça, c'est vraiment donner de la qualité. Entre ce problème-là et l'investissement énorme en temps que ça demandait, il y avait ce côté lassitude. Et puis il y avait aussi dans le temps, dans l'air, dans l'époque aussi le côté consommateur, c'est-à-dire je picore à droite à gauche. Donc vous organisez une manifestation et finalement quelque part il y a aucun retour au niveau financement. Vous voyez que pour toutes ces raisons, c'était aussi peut-être l'époque qui le veut, on a fini par renoncer, même si aujourd'hui ça peut paraître dommage. En tout cas, grâce à la Covid, en tout cas, on a bien vu qu'on a bien fait d'arrêter. Mais ça nous limite en termes de financement. Alors, je voudrais quand même préciser par rapport à ce qui a été dit, c'est que Michel a raison. Là, par exemple, en venant, il me rappelait que pour cette formation citoyenne, demander 170 euros pour trois ou je ne sais plus combien de séances.
8 séances pour 8 personnes.
Voilà. Ça paraît pas énorme, hein, et vu l'investissement, parce que même si on est bénévole, derrière il y a des supports, il y a des heures de travail. C'est vrai que du coup, aujourd'hui, ça devient compliqué. Je veux dire, on peut être bénévole, mais on n'est pas non plus le sacrifice a ses limites. Et aujourd'hui, je pense que c'est quand même important cette formation sur la citoyenneté, parce que je sais pas pour vous, mais moi, mon éducation civique, elle est un peu loin, et je pense que pour des plus jeunes, je sais même pas s'ils l'ont eu. Et l'idée de donner cette culture à des populations, alors pas seulement sur des migrants, encore que c'est très intéressant quand on émigre dans un pays, de connaître les règles pour déjà ne pas se mettre à dos ceux qui ne vous aiment pas. Mais même aujourd'hui, je pense que c'est des initiatives qui devraient avoir lieu. Peut-être que ça prendra un peu plus, on ne sait pas. On l'espère en tout cas, parce que pour le coup, on s'engage et effectivement, c'est toujours frustrant de voir que ça ne prend pas de l'autre côté. Voilà.
Alors, on va terminer avec les projets pour l'avenir de l'association. Quels sont ces projets ?
Alors, les projets, donc, j'en ai fait état un petit peu au départ. C'est principalement donc, tout ce qui est coopération décentralisée. Donc, nous avons lancé une vaste recherche sur toutes les communes françaises. On a sélectionné quand même par rapport à des critères. On prend des contacts avec des communes françaises. Ce sont nos partenaires togolais qui prennent ces contacts. On s'est aperçu que c'était plus payant, entre guillemets. Il y avait une meilleure réaction quand c'était directement les bénéficiaires qui contactaient. Donc, nous avons deux contacts en ce moment. Et nous développons également des partenariats pour des rapprochements culturels avec des écoles primaires. Ça, nous avons actuellement 3 écoles, c'est quasiment signé. Et là, on a bien avancé sur ce sujet. Un rapprochement culturel, c'est ce qui se passait encore il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. On appelait ça les correspondants. Maintenant, on a évolué avec tout ce qui est nouvelles techniques. Donc, ce sont des échanges de classe à classe, de professeur à professeur, via, bien sûr, des photos, via des textes, via des enregistrements, via des vidéos qui utilisent le numérique au maximum, bien sûr.
Pour conclure, donc évidemment, vous faisiez part de la situation, du manque de bénévoles, de bonne volonté. C'est peut-être le moment aussi de faire appel à ces bonnes volontés.
Bien sûr. Alors, les bonnes volontés sont de deux sortes. Premièrement, les élus. Les élus donc, qui sont devant à certains moments de leur gestion municipale, devant donc des incivilités, devant des manquements, devant un certain nombre de choses, nous leur proposons, et nous avons déjà proposé à certains d'entre eux, donc d'organiser ces formations à la citoyenneté, tout au moins ces informations surtout, parce que se forme bien sûr qui veut après. Et là, écoutez, s'ils veulent, s'ils sont intéressés, s'ils nous écoutent, qu'ils prennent contact, je pense, avec la radio, et vous pourrez donc nous renvoyer les demandes. Et puis également donc avec des bénévoles surtout en termes de réalisation de projets. Voilà, quelqu'un qui sait conduire un projet, quelqu'un qui souhaite développer quelque chose, même si on n'en a pas, nous, l'idée. Les idées peuvent venir de l'extérieur, c'est ce qu'on cherche.
Merci à vous, Catherine Leroux et Michel Roux, d'avoir accepté notre invitation.
Merci. Merci.
C'est la fin de cette émission. Vous pouvez l'écouter le samedi à 15h et le jeudi à 19h30. Vous pourrez également la retrouver par la suite sur notre site internet bpmlaradio.com en podcast. Très bonne journée à tous, à l'écoute des programmes de BPM.